Europe Midi, Thierry Dagiral.
Il est midi et demi, soyez les bienvenus, c'est Europe Midi, 30 minutes d'information jusqu'à 13h et plusieurs dossiers que l'on va développer en ce lundi 27 décembre. Y aura-t-il de nouvelles mesures pour lutter contre la déferlante Omicron? Réponse ce soir après un nouveau conseil de défense sanitaire. Quelles sont les pistes possibles? Toutes nos dernières informations avec Alexandre Chauveau du service politique et l'analyse de l'épidémiologiste Philippe Amouyel, mon invité dans un instant. On le sait, c'est la principale crainte de l'exécutif. Comment éviter la paralysie du pays alors que les arrêts de travail explosent? Comment concilier lutte contre le virus et maintien de l'économie? C'est un enjeu majeur, on en parlera avant 1h moins le quart avec Jean-Christophe Sibéras, ancien DRH, aujourd'hui à la tête d'un cabinet de conseil en relations sociales. Dans Europe Midi également, nous reviendrons sur l'arrestation de l'évadé de Pontoise. On va vous raconter les coulisses de cette évasion mardi soir dernier. Et puis on va s'intéresser à nos vies quotidiennes avec des syndics de copropriété obligés d'être plus transparents à compter du 1er janvier. Et la galère des industriels qui ne pourront plus emballer dès la semaine prochaine les fruits et légumes avec du plastique. Enfin, on parlera de vos vacances. Vous êtes restés surtout en France pour ces congés de fin d'année. Mais vu l'incertitude sanitaire, le secteur du tourisme est en panique avec un énorme point d'interrogation pour les vacances de février. Le président du syndicat des entreprises du voyage, Jean-Pierre Masse, sera en direct dans ce journal vers 1h moins 10. Mais d'abord, la tendance météo de votre lundi, Valérie Darmon.
Eh bien Thierry, les pluies arrivées sur les régions océaniques pendant la nuit vont arroser dans les heures à venir les Hauts-de-France, le Grand Est et la Franche-Comté, après être passées par la Bourgogne, l'Auvergne-Rhône-Alpes et la région PACA. Et ce matin, bien sûr, sur toute la façade ouest. Elles sont assez marquées et abondantes dans le centre. Sur la façade ouest, justement, cet après-midi se déroule en travers ces rares éclaircies parce que vous êtes passé en ciel de traîne. Les rafales de vent sont toujours proches de 60 km/h dans les terres, 70 près des côtes. La douceur des températures est bien atténuée par le ressenti au vent et par la pluie battante par endroits.
Et bien sûr, la météo complète juste avant 13h.
Europe 1.
16h cet après-midi, conseil de défense sanitaire suivi à 17h d'un conseil des ministres extraordinaire. Alexandre Chauveau du service politique d'Europa nous a rejoint. Bonjour Alexandre.
Bonjour Thierry, bonjour à tous.
On va commencer par le conseil de défense sanitaire à 16h. Donc, quelles sont les mesures sur la table à cette heure-ci?
Alors, il y en a plusieurs évidemment. La plus importante peut-être concerne la baisse de la durée d'isolement des cas contacts qui peut aller jusqu'à 17 jours aujourd'hui car le gouvernement souhaite éviter une paralysie du pays avec un trop grand nombre de personnes en arrêt de travail. Il faut dire qu'avec plus de 100 000 cas par jour et sachant qu'une personne peut en moyenne en contaminer 10 autres, on pourrait atteindre dans les prochains jours 1 million de personnes à l'isolement avec des conséquences évidemment néfastes sur l'économie. D'autres mesures seront étudiées. La durée entre la dernière injection reçue et la dose de rappel pourrait ainsi à nouveau être réduite et passer de 4 à 3 mois. Et puis il sera également question du couvre-feu éventuel pour la soirée du Nouvel An. Mesure a priori pas privilégiée à ce stade mais qui n'est pas totalement écartée.
Alors Alexandre, ensuite le Conseil des ministres a dit distance par visioconférence car le président Macron est toujours dans le Var. Là, on va parler du pass vaccinal.
Oui, le projet de loi sera présenté à partir de 17h avec une entrée en vigueur espérée à la mi-janvier. Pass vaccinal qui, on le rappelle, remplacera le pass sanitaire mais qui ne sera valide que grâce au vaccin. Et pour inciter justement à la vaccination, ce pass pourrait être accessible aux primo-vaccinés dès la première injection. Il pourrait en revanche devoir être complété par un test négatif pour accéder à certains lieux jugés à très haut risque comme les discothèques par exemple.
Alexandre Chauveau, il faut bien le dire, l'exécutif joue gros, très gros, combattre Omicron sans casser le moral des Français en cette période de fête.
Oui, c'est tout le dilemme d'Emmanuel Macron. Le moral des Français, ça passe évidemment par l'économie, les bars, les restaurants, les cinémas, les commerces. Autant d'établissements qui pourraient être concernés par des éventuelles restrictions, type couvre-feu ou confinement. Et puis dans les prochains mois, si la situation venait à se dégrader, il faudra qu'il trouve l'équilibre entre sa casquette de président, susceptible de prendre des décisions impopulaires, et celle de candidat à sa réélection qui le pousserait davantage à mettre en avant des mesures plus porteuses d'espoir.
Merci Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1. Bonjour Philippe Amouyel.
Bonjour.
Épidémiologiste, bien sûr, professeur de santé publique au CHU de Lille. On vient de l'entendre, les mesures possibles qui seront annoncées ce soir, notamment la réduction de la durée d'isolement des cas contacts. C'est une bonne chose pour vous?
Alors oui, dans la mesure où, dans le cadre où vous êtes un cas contact, qui est vacciné en particulier, que vous avez moins de 65 ans, en plus que vous vous avez une profession critique pour le maintien de la société, oui, il faut mettre en œuvre une réduction, c'est-à-dire ou la supprimer complètement, bien sûr, sous réserve d'avoir fait un premier test négatif et un deuxième, bien entendu, à la fin.
Philippe Amouyel, a priori, bien sûr, l'idée d'un couvre-feu le 31 décembre serait abandonnée. C'est une mauvaise idée par les temps qui courent ou pas ?
Écoutez, l'année passée, c'est ce qu'on avait fait. Il y avait eu un maintien du couvre-feu le 31 décembre, alors qu'on l'avait levé le 24 décembre. Ce qu'on a vu l'année passée, c'est que sans les vaccins à l'époque, les Français avaient été très sérieux et on n'avait pas eu de pic ni au 24 ni au 31. Maintenant, on pourrait peut-être le remettre puisque le virus est d'autant plus contagieux. Mais ça, c'est une décision qui est complètement politique et pas scientifique.
Selon vous, pour stopper cette cinquième vague, il faudrait aller plus loin, quitte finalement à être impopulaire?
Alors en fait, la cinquième vague et sixième vague, hein, puisque c'est une nouvelle vague à l'Omicron, je pense pas, on n'est pas dans la même situation qu'il y a un an. On a la vaccination, donc on peut encore essayer de stimuler les gens et surtout de mettre en place ces mesures barrières qu'on a un peu tendance à trop négliger, y compris dans les classes, y compris dans les écoles. Envisager des mesures qui seraient peut-être un peu impopulaires, mais rien à voir avec un confinement complet, bien entendu.
Restez avec nous, Philippe Amouyel. Justement, je voudrais qu'on écoute le docteur Djilali Annane. Il a signé, avec beaucoup d'autres médecins ce matin, une tribune dans Le Parisien pour réclamer le report de la rentrée scolaire.
Aujourd'hui, les risques de la prolongation de la fermeture des écoles par rapport aux bénéfices que l'on peut en attendre sur le contrôle de la pandémie et donc sur la société, notamment au mois de janvier, sont vraiment en faveur de cette décision. Techniquement, nos bâtiments scolaires ne sont toujours pas adaptés. On a un lieu avec un très haut risque de circulation du virus dans une population très peu vaccinée. Donc ce qui risque de se passer à la rentrée, c'est un phénomène de catalyse de l'épidémie de la vague Omicron avec une réaccélération de la vague qui est déjà à un niveau très élevé. Donc, encore une fois, nous, on estime qu'une des mesures importantes à prendre est de décaler la rentrée scolaire et d'essayer de faire coïncider la vaccination des moins de 11 ans et la reprise de la scolarité.
Voilà pour le docteur Djilali Annane. Philippe Amouyel, pour vous, il faudrait repousser la rentrée scolaire. Le protocole à l'école est-il suffisant ?
À l'évidence, non, puisque si on regarde ce qui s'est passé avant l'arrivée des vacances scolaires, on s'est rendu compte qu'en fait, le taux de contamination des 6-12 ans était deux fois supérieur, l'incidence est deux fois supérieure à celle de la population générale. On avait des taux de contamination de presque 1% dans ces classes. Donc en fait, les enfants non vaccinés, bien entendu, sont porteurs et foyers de contamination. Alors, l'idée, c'est que quand on va reprendre le 3 janvier, après les fêtes du Nouvel An, que potentiellement on aura une augmentation, ça va se transmettre chez les enfants et à nouveau, ça va redémarrer. Ils sont encore à des taux élevés, ils sont à peu près à 800 pour 100 000 habitants, pour 100 000 enfants, pardon, quand la France en est à 600 en moyenne. Donc là, il y a vraiment un enjeu. Alors si on dit, mais oui, on met en place les mesures barrières et autres, on les avait théoriquement déjà avant les vacances scolaires. Le masque, l'ouverture, l'aération, bien sûr, il faut les mettre en œuvre, mais c'est quand même très difficile à faire respecter. Aussi, le fait de repousser d'une semaine la rentrée scolaire permettrait d'écraser un peu probablement la vague de dissémination, surtout si on réduit les durées de confinement des cas à contact.
L'épidémiologiste Philippe Amouyel sur Europe 1 ce midi. Restez avec nous. Yasmina Katou nous a rejoint en studio. Bonjour Yasmina.
Bonjour Thierry, bonjour à tous.
Le masque en extérieur est à nouveau obligatoire dans certains départements français. Yasmina, est-ce qu'il pourrait être généralisé ce soir ?
Eh bien, cette mesure devrait être abordée cet après-midi en Conseil de défense sanitaire. Rien n'est écarté pour tenter de freiner la très forte propagation du variant Omicron. Il s'agirait d'imposer le masque en extérieur, là où il n'est pas possible de respecter une distance de sécurité suffisante, dans les centres-villes par exemple. Une mesure utile mais insuffisante, dit le professeur et épidémiologiste Didier Pittet.
À l'extérieur, l'essentiel c'est évidemment de respecter les mesures barrières en règle générale, c'est-à-dire l'hygiène des mains, la distance sociale, ça veut dire qu'on ne peut pas ni se serrer la main, ni s'embrasser. Le masque, lui, a un intérêt lorsque la distance sociale ne peut pas être respectée. Au-delà, à l'extérieur, ça n'a aucun intérêt.
L'idéal à l'extérieur, même avec un masque sur le nez, serait donc de respecter une distance d'au moins un mètre pour éviter toute contamination. Les spécialistes recommandent de changer de masque toutes les 4 heures pour que celui-ci reste efficace.
Yasmina Katou du service Société d'Europe 1. Philippe Amouyel, est-ce que le retour du masque en extérieur vous paraît être une nécessité ? On parlait des gestes barrières tout à l'heure.
Alors, le masque en extérieur imposé, on va dire généralisé systématiquement, c'est plus un message de la population pour dire attention, on est dans une situation grave, que d'une mesure réellement efficace. Le masque, il faut le porter de manière intelligente quand vous êtes à l'extérieur, et comme le disait Didier Pitté, lorsque vous êtes dans des zones où vous ne pouvez pas respecter des distances limites de transmission, en particulier dans un centre commercial, en particulier dans une rue très commerçante, là, oui, il faut le porter. Donc, le fait d'envoyer un message, c'est plus peut-être un message pour alerter la population en disant qu'on est en phase grave et qu'il est important de reprendre les mesures barrières en les imposant ainsi à l'extérieur.
L'épidémiologiste Philippe Amouyé, l'invité d'Europe Midi, merci, grand merci à vous. Merci beaucoup. Justement, on parlait des masques en extérieur. Nina Droff, ils sont de nouveau obligatoires chez certains de nos voisins européens.
Oui, comme vous l'avez dit, de nombreux pays ont rétabli le port du masque en extérieur. C'est le cas en Grèce, à l'extérieur comme à l'intérieur, en Espagne. Et l'Italie va même plus loin, puisque le masque FFP2 plus protecteur sera bientôt obligatoire pour se rendre dans les cinémas et les théâtres. Certains pays, eux, ont fait le choix de fermer certains établissements pour endiguer les contaminations. Depuis hier, les Belges sont privés de cinéma ainsi que de salles de spectacle, une mesure qui restera en vigueur au moins jusqu'au 28 janvier. Au Portugal, ce sont les bars et les discothèques qui ont dû baisser rideaux alors que le variant Omicron est déjà majoritaire dans le pays. Le télétravail est également devenu obligatoire. Ce qui pourrait intéresser la France, ce sont les mesures prises par nos voisins allemands. Pour accéder aux endroits les plus à risque, c'est le régime 2G+, qui s'applique. C'est une sorte de passe vaccinale renforcée. Par exemple, pour aller dans certaines salles de concert, il faut avoir 2 doses et un test négatif, excepté pour les personnes qui ont reçu une dose de rappel, qui, eux, n'ont pas besoin de présenter de test. Et ce passe vaccin plus test, il est aussi demandé pour entrer dans les discothèques suisses ainsi qu'à la frontière autrichienne.
Nina Droff sur Europe 1. Alors, on a largement parlé de l'aspect sanitaire, on va maintenant parler de l'aspect économique. Et c'est bien sûr tout l'enjeu. Certains secteurs sont menacés de paralysie, les contaminations explosent et donc les arrêts de travail explosent. Bonjour Élise Dangean.
Bonjour.
Un taux d'absentéisme qui s'envole pour certaines entreprises. Pour les patrons, c'est un vrai casus belli, Élise. Hein.
Et oui, notamment pour ceux dont les activités ne sont pas télétravaillables. Il faut gérer les salariés positifs au Covid et les cas contacts difficilement remplaçables en cette période de congé. Prenez la SNCF, elle a déjà dû supprimer plusieurs trains régionaux. Certaines compagnies aériennes sont obligées, elles aussi, de réduire la voilure. Pour l'industrie, déjà frappée par des pénuries de main-d'œuvre et de matières premières, le sujet est très délicat. C'est pour ça, par exemple, que Michelin va renforcer le protocole sanitaire de ses usines. L'idée étant de réduire au maximum les cas, les contacts. Et c'est là tout l'enjeu. Car cette semaine, bon nombre d'entreprises ont une activité réduite. Trêve des confiseurs oblige. Mais tous les yeux sont rivés sur la rentrée, explique Yves Lacueil, directeur général du groupement des industries de la métallurgie.
Les retours que l'on a, c'est que les entreprises sont surtout très inquiètes pour la rentrée de janvier. Parce qu'aujourd'hui, c'est assez important, c'est significatif. Quand une PMI de 45 salariés a 6 personnes qui ne sont pas là, ça commence à être un vrai problème. Mais je pense que beaucoup d'entreprises sont devenues très souples et sauront faire face. Je pense que si en janvier, en revanche, elles sont submergées par un nombre important de gens qui sont absents, là oui, ça va vraiment remettre en cause leur niveau d'activité.
Élise, est-ce qu'il y a d'autres secteurs qui pourraient être concernés également ?
Tout à fait. L'éducation nationale, par exemple, selon le Conseil scientifique, plus d'un tiers des enseignants pourraient se retrouver contraints de rester à la maison à la rentrée. Il faudra donc garder les enfants. Et puis, vous avez les commerces, notamment alimentaires, les chauffeurs de transport routier, les transports en commun. C'est pour ça que le gouvernement planche donc sur la réduction du temps d'isolement des cas contacts vaccinés.
Élise Dangean du service économie d'Europe 1. Bonjour Jean-Christophe Sibéras.
Bonjour.
Ancien DRH de grosses sociétés comme AXA, L'Oréal, aujourd'hui président de Newbridge, cabinet de conseil en relations sociales et internationales. 42 541 arrêts de travail entre la Toussaint et Noël, selon l'assurance maladie. Ils ont bondi de 740% pour les seuls cas contacts. Réduire cet isolement, c'est nécessaire pour vous ?
Bah écoutez, oui, parce que l'économie, c'est quand même important, c'est ça qui nous fait vivre, c'est ça qui paye la sécu, donc il faut être très attentif à l'équilibre entre la santé et le fonctionnement de notre économie. Donc là, on est dans une phase où il y a une croissance exponentielle des arrêts, donc tout ce qui va dans le sens de la réduction de ces arrêts va dans le bon sens. Moi, je n'ai pas d'avis sur le plan sanitaire, ce qui compte, c'est la question du travail et
bien
de
sûr
pouvoir fonctionner une fois qu'on a épuisé les solutions type télétravail.
Dites-moi, un chiffre quand même pour fixer les esprits, 108 milliards d'euros par an, c'est le coût des arrêts maladie dus au Covid. On avait le pass vaccinal obligatoire pour les soignants dans certains secteurs comme l'hôtellerie, la restauration. Il faut, selon vous, rendre ce pass vaccinal obligatoire pour tous les salariés. Les syndicats, on le rappelle, sont bien sûr contre.
Oui, le gouvernement a tenté cette idée-là, là, bon, avant Noël. Les organisations syndicales, même d'employeurs, n'étaient pas très favorables. À vrai dire, faut quand même regarder, hein, parce que si on veut être efficace, si on veut que les entreprises fonctionnent et pas que les gens soient chez eux en arrêt de travail, il faut peut-être effectivement trouver d'autres solutions. D'autant que, comme par exemple, effectivement, qu'on puisse avoir un pass vaccinal à l'entrée de l'entreprise. Il y a des pays à côté de nous, pas loin, qui le mettent en place, comme l'Italie ou l'Allemagne. Ouais. Donc c'est quand même une question qui se regarde.
L'éclairage de Jean-Christophe Sibéras, président de New Bridge Conseil en relations sociales internationales. Merci, grand merci à vous, monsieur. Une heure moins le quart, restez avec nous dans un instant, la suite d'Europe Midi. On va vous raconter les coulisses de l'évasion aux urgences de Pontoise. C'était mardi dernier. Et puis on parlera des vacances. Quand le doute sanitaire s'installe, eh bien, ce sont les réservations de février qui trinquent. A tout de suite sur Europe 1. Bon appétit à tous.
Europe Midi, Thierry Dagiral.
Bientôt 1h moins 10, merci de nous écouter sur Europe 1, la suite de votre édition de la mi-journée. Rappelez-vous, c'était mardi dernier aux urgences de Pontoise, près de Paris, un détenu qui s'évade grâce à l'aide de sa compagne. Les deux fuyards ont été arrêtés hier à Düsseldorf, en Allemagne. Gladys Laffitte, on en sait maintenant plus sur cette évasion.
Oui, ça s'est passé hier, vous le disiez, vers 15h30. L'interpellation a été faite par la police de Düsseldorf, près de la frontière néerlandaise. Elle s'est passée sans incident, alors même que l'homme était considéré comme dangereux au vu de ses conditions d'évasion avec arme à feu. Arme à feu qui a été retrouvée, un fusil à pompe avec des cartouches dans le fourgon du couple immatriculé en France. En tout cas, ils ont été retrouvés très vite grâce au travail de la police judiciaire française et à la coopération européenne. Écoutez les explications de Sonia Fiblel, porte-parole de la police nationale.
La police française a fait une investigation technique très approfondie, évidemment sur la téléphonie, qui a permis de les localiser en Allemagne et de verser tous ces éléments aux Allemands, notamment par le truchement d'une décision d'enquête européenne qui a permis en fait de faciliter le travail de police à police, mais surtout de justice à justice.
Alors maintenant, le couple va être présenté à un magistrat allemand, puisqu'une demande d'extradition a été faite par la France. L'enquête continue concernant l'évasion en elle-même, mais aussi sur ce que l'homme et sa compagne ont pu faire durant leur cavale et s'ils ont bénéficié d'une éventuelle complicité.
Merci Gladys Laffitte du service police-justice d'Europe 1. Votre vie quotidienne à présent, beaucoup de choses vont changer à partir du 1er janvier, notamment ce qui concerne les syndics d'immeubles. Ils auront l'obligation d'afficher leurs prix et d'être plus transparents sur leurs tarifs. Autre changement à partir du 1er janvier, la fin des emballages plastiques, notamment pour les fruits et légumes, et c'est un casse-tête pour les industriels, car un emballage carton nécessite d'énormes investissements et aucune alternative n'existe pour le moment, Louise Salé.
Radis équeutés en sachets, mâches en barquettes ou germes de soja, pour ces jeunes pousses, l'emballage carton ne fonctionne pas à cause de l'humidité. Et à une semaine du 1er janvier 2022, la filière se retrouve sans solution. Jacques Rouchausset est président des producteurs de légumes de France.
Il n'y a aucun moyen de substitution aujourd'hui pour pouvoir emballer les radis d'une autre manière. Vous allez avoir un produit qui va être à côté de l'attention des consommateurs, c'est-à-dire qu'il va être tout sec, etc.
Autre souci, lorsque l'alternative existe, c'est le coût qui est pénalisant. Certains petits opérateurs pourrait mettre la clé sous la porte. Laurent Grandin dirige l'interprofession des fruits et légumes.
Quand vous êtes à des coûts pour certains emballages allant jusqu'à 5 à 6 fois les prix en vigueur, bah tout simplement, vous n'êtes pas en capacité de mettre en œuvre le dispositif. Pour la pomme, par exemple, quand vous prenez une machine pour emballer du carton, entre le stock, etc., vous avez de l'ordre d'un million d'euros d'investissement, ce qui n'est pas à la portée de n'importe quelle station.
Les producteurs des aliments visés par l'interdiction ont 6 mois pour écouler leur stock de plastique, mais cette tolérance n'est juridiquement pas claire, et pour éviter toute sanction, les distributeurs pourraient retirer ces produits des rayons dès la semaine prochaine.
Louise Salé, on va parler des vacances à présent. Peut-être avez-vous la chance d'en avoir en ce moment, d'y être. Vous êtes nombreux à la montagne, mais également au bord de la mer, en France, en tout cas notamment à Marseille, où il ne fait pas très beau aujourd'hui. Notre correspondant sur place, bonjour Stéphane Burgat.
Bonjour Thierry, bonjour à tous.
Stéphane, le secteur du tourisme et de l'hôtellerie attend bien sûr les annonces de ce soir concernant d'éventuelles nouvelles mesures.
Oui, parce que le tempo est un petit peu compliqué en ce moment pour eux, hein, depuis les récentes annonces de Jean Castex.
Les hôteliers vivent une fin d'année qui est vraiment assez terne. Les réservations sont au point mort, les annulations se multiplient. Et dans ce contexte, eh bien voilà, ils misent vraiment beaucoup stratégiquement sur ce week-end de la Saint-Sylvestre pour se refaire un petit peu, d'autant plus qu'il fera très beau ce week-end. Mais aujourd'hui, l'ambiance est plutôt au doute et à l'inquiétude pour le directeur, par exemple, de l'hôtel Radisson Blu du Vieux-Port, Lionel Van der Loot.
Je vous avoue que la télévision est allumée dans le restaurant et tout le monde attend avec impatience. Le personnel, les chefs de département, moi-même, tout le monde se demande à quelle sauce on va être mangé. Mais l'inquiétude, c'est qu'il y a un couvre-feu déjà pour le 31 et peut-être plus pour les bars et restaurants. Forcément, quand vous venez passer quelques jours au soleil, qu'il n'y a pas de point de restauration ou de bar pour se détendre ou de terrasse, forcément, on hésite, les gens ne vont pas venir.
Voilà, les professionnels qui se projettent également au-delà de ce réveillon. Les premiers mois de l'année sont rythmés traditionnellement par les réservations autour des congrès, des séminaires. C'est une période vraiment très importante pour eux. Et là encore, la teneur potentielle de ces annonces gouvernementales pourrait tout changer.
Stéphane Burgat à Marseille pour Europe 1, grand merci. Bonjour Jean-Pierre Mas.
Bonjour.
Président du syndicat des entreprises du voyage, on l'a entendu, le secteur du tourisme et de l'hôtellerie. Retient son souffle et bien sûr attend ce soir les annonces.
Oui, bien sûr, on ne sait pas ce qui va se passer. On espère que les frontières ne seront pas à nouveau fermées, d'autant que cette mesure pour un pays comme la France avec des frontières terrestres très poreuses est totalement inefficace. Et on est dans l'expectative.
Les Français sont partis où pour ces vacances de Noël et de fin d'année? On entendait Stéphane Burgat dire pas trop dans le sud, en tout cas pas trop à Marseille. Ils sont partis où? En montagne principalement?
Alors, ils sont partis essentiellement en France pour faire du ski en montagne et ils n'ont pas annulé leurs vacances, même quand la crise épidémique s'est un petit peu accentuée. Ils sont partis ensuite au soleil, ce qui est normal à cette période-là. Ouais. En Europe, difficile. Le Maroc est fermé également. Donc, ils sont plutôt allés aux Canaries, un petit peu sur les îles du Cap-Vert. Et puis, ceux qui avaient un petit peu plus de moyens et qui sont allés plus loin, les destinations qui ont vraiment performé pendant ces vacances de Noël, c'est la République dominicaine, c'est Dubaï avec l'exposition universelle et c'est l'île Maurice également.
Jean-Pierre Mas, prochaines vacances au mois de février, c'est une certaine forme d'incertitude finalement. Les réservations sont molles, en suspens pour le mois de février. On attend de savoir ce qui va se passer, bien évidemment.
Ah, c'est électroencéphalogramme plat. Elles ne sont pas molles, elles sont inexistantes. Si on regarde à la date d'aujourd'hui, le niveau des réservations pour les vacances de février et mars, on est à un quart du niveau des réservations de la même date de 2019.
C'est fou.
Donc il y a trois quarts de chute. C'est-à-dire que les Français n'anticipent pas du tout leurs vacances. Ouais. Et puis ils sont pris par le climat anxiogène qui n'encourage pas à prendre des décisions de voyage à long terme.
Le président du syndicat des entreprises du voyage, Jean-Pierre Mas, sur Europe 1. Merci, merci à vous, monsieur. On va terminer avec le sport, ou plutôt les violences dans le sport. Lyon et le Paris FC devraient être très vite fixés. C'était il y a, rappelez-vous, 10 jours au stade Charletti. Incident puis interruption lors des 32e de finale de la Coupe de France. La commission de discipline de la Fédération de football est réunie depuis 10 heures ce matin. On devrait connaître les sanctions en tout début d'après-midi. Retour sur les faits avec vous, Cédric Chasseur.
Eh bien, tout est parti du parquage visiteur, celui des supporters lyonnais. Les joueurs venaient à peine de revenir sur le terrain quand des ultras et certains spectateurs parisiens s'invectivent. La situation dégénère alors rapidement, des bombes agricoles explosent, des fumigènes sont lancés vers d'autres tribunes. Panique totale malgré l'arrivée de policiers en uniforme. Il faudra plusieurs minutes avant de retrouver un semblant de calme. Après la rencontre, le président de l'OL, Jean-Michel Aulas, analysait la situation.
Au niveau de la Piconnaire, on sera d'une sévérité exemplaire. Maintenant, les premiers gestes de violence, l'envoi des pétards sur les supporters lyonnais, n'ont pas été faits par des supporters entre eux.
Et voici la réponse immédiate que lui a faite son homologue Pierre Ferracci.
Jean-Michel, il est bien gentil, il sait que je le défends quand il est sur la bonne voie, mais là, il faut qu'il regarde la réalité en face. S'il ne traite pas le problème de ses supporters, il va continuer à plonger et il va faire plonger tout le football.
Reste maintenant à établir les responsabilités. Pour cela, la commission de discipline de la FFF pourra s'appuyer sur les rapports des arbitres et sur les auditions des dirigeants lyonnais et parisiens réalisées plus tôt dans la matinée.
Voilà, réponse donc en tout début d'après-midi. Cédric Chasseur du service des sports d'Europe 1. La météo à présent. Valérie Darmon, un temps agité avec beaucoup de vent.
Absolument, jusqu'à ce soir, Thierry, le temps est très instable avec des averses parfois fortes. Ces précipitations qui viennent se bloquer là dans les heures à venir sur l'ouest du Massif central, donnant d'importants cumuls d'ailleurs, l'équivalent de 3 semaines de pluie. Ces précipitations qui seront également abondantes sur les Vosges et le Jura en toute fin de journée, parce que cette dégradation poursuit sa route vers la façade est. Et une fois passé en ciel de traîne, le temps s'améliore progressivement sur la côte atlantique avec le retour d'un temps sec, notamment au Pays Basque, après les orages de ce lever du jour ce matin, jusque dans l'entre-deux-mers ainsi qu'entre le Roussillon et la Provence. Tout au long de la journée, le vent va souffler fort quand même sur cette façade atlantique. Les températures restent douces, mais la douceur ne suffit pas à faire passer ce ressenti désagréable humide. C'est maximal qui affiche néanmoins 10 en plaine d'Alsace, jusqu'à 16 sur le bassin aquitain, en passant par 12 degrés à Paris.
Merci beaucoup Valérie Darmon, merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain avec beaucoup de plaisir. Dans un instant, Elisabeth Assayag et Emmanuel Duteil pour La France Bouge. Bel après-midi à tous sur Europe 1.